analyse, opinion et entrevue. Sur rbds.ca, bienvenue à l'émission Les Gérants d'Estrade. Et maintenant, voici celui qui n'a pas peur de ses opinions, votre animateur, Simon Smerica.
Bienvenue, mesdames et messieurs, à une autre émission des Gérants d'Estrade. Émission du 15 août, épisode 20, où on va voir entre autres les frasques à Maurice Claret. Combien vaut Simon Gagné, Villeneuve en NASCAR, et puis les problèmes que Evgeny Malkin a présentement. Mais avant de commencer, accueillons notre invité d'aujourd'hui.
And now, here's Maxime Chevalier.
Bonsoir Maxime.
Bonsoir Simon, en forme?
Oh oui, toi?
Ben oui.
Alors parlons de ça. On va commencer tout de suite avec les problèmes que Evgeny Malkin a présentement. Evgeny Malkin qui a déserté son club en Russie. Et puis présentement, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe avec lui. Qu'est-ce que t'en penses?
Qu'est-ce que j'en pense? Écoute, c'est pas vraiment des problèmes quand tu t'appelles Malkin puis ton avenir est assuré avec les Pingouins. J'aimerais savoir ses problèmes à lui. Moi, je pense que c'est une supercherie. Il a signé un contrat cette année avec son club en Russie pour faire cracher de l'argent aux Pingouins. Qu'est-ce que t'en penses, toi?
Ben, Malkin, présentement, je pense qu'il y a des problèmes plus qu'au niveau juste hockey. Il a changé d'agent déjà une fois avec Pat Brisson. Il est parti avec Don Meehan. Il a resté 2 semaines avec Don Meehan, qui, entre autres, il a donné le conseil suivant, qu'en Russie, on pouvait se dégager de ses responsabilités à condition de donner 2 semaines d'avis. Il est retourné avec Pat Brisson, et puis présentement, c'est ça que ça donne. On n'en sait pas plus.
Fait que dans le fond, le gars il est au courant qu'en donnant 2 semaines d'avis, il peut se libérer de ses, comment je pourrais dire, ses obligations envers l'équipe.
Oui, sauf que le club...
Il l'a pas fait.
C'est ça. Présentement, il avait signé un contrat de 3 ans avec le métallurgue de Manitorgosk.
C'était pas un an, Simon?
Ben, c'était 3 ans, mais il avait réussi à pouvoir le modifier pour une seule année.
Tu vois, quand on s'appelle Eugénie Malkin, là, on n'a pas vraiment de problème.
Bon. Selon des sources qui m'ont été rapportées, présentement, Malkin qui aurait reçu un email et que son année de contrat qui avait été modifiée avait été signée sous peut-être des menaces qui auraient un lien avec sa famille et la business de la famille.
Ah ouais.
Donc, a-t-il peur de la mafia?
On sait qu'en Russie, la mafia trempe dans pas mal toutes les affaires, que ce soit sportives, politiques ou pétrolières.
Bon, on sait que durant la dernière, le dernier lockout, il y a plusieurs joueurs de la Ligue nationale, entre autres bon, Vincent Lecavalier qui avait été joué en Russie, puis... On suggérait de pas trop se promener dans les rues en Russie quand on sait que combien que tu peux avoir dans ton compte de banque.
Ouais, tu peux te faire enlever après ça. Bon, tes proches sont obligés de verser une rançon. Comme dans les films Hollywood, ça, Simon?
Oui. Le métallurgue s'était fait offrir une compensation de 200 000 $, mais on pense qu'il en voudrait 10 fois plus.
Donc, 10 millions? 2 millions, excuse.
Ouais, approximativement. Bon, est-ce que... Mais là, la Ligue nationale s'en est mêlée. Ils veulent pas que les Pingouins payent une somme aussi astronomique.
Sinon, ça créerait un précédent. Puis là, à chaque fois qu'il y aurait un joueur européen qui serait convoité par un club de la Ligue nationale, il faudrait que les équipes de la Ligue versent justement une compensation aux équipes.
Ben, j'imagine que oui, mais en plus, probablement que ça aurait un lien justement avec les négociations entre la Fédération internationale de hockey sur glace et la Fédération de hockey de Russie. Présentement, ils sont en train de signer des ententes. Si les Pingouins payent tout de suite 2 millions, à ce moment-là, tout va être à hausse.
Oui, tu as tout à fait raison.
Bon. Maintenant, s'il retourne avec les Pingouins, est-ce une bonne affaire? Parce que là, on parle que le métallurgue pourrait amener en cours les Pingouins et la Ligue.
Tout ça à cause d'un gars qui n'a pas donné 2 semaines d'avis.
Ben oui, j'imagine que c'est ça. Présentement, bon, il a déserté. Est-ce que il y a des problèmes familiaux? Est-ce que il déserte justement pour négocier ou voir son agent ou il déserte pour de bon pour s'en aller avec les Pingouins? Ça reste encore un mystère. Il retourne avec les Pingouins. Il reste avec les Pingouins. C'est une bonne chose.
Si c'est une bonne chose, ben écoute, un joueur la trempe à Malkin, là, c'est sûr que c'est pas à dédaigner. On se rappelle que les Pingouins l'année passée ont terminé au dernier rang, je crois.
Mm-hmm.
Cracher sur un joueur de la trempe à Malkin, je voudrais vraiment être stupide.
Ben, moi, je trouve que c'est une bonne chose s'il pourrait rester en Russie.
Ah oui?
Oui, je m'explique.
Compléter son développement, quoi.
Ben, pour compléter son développement, puis... OK, c'est vrai que, bon, les partisans des Pingouins mangeraient encore de la vache maigre.
Tu penses?
Ben oui.
Le Crosby a gagné en maturité. Fleury, il va être un petit peu plus solide.
Qu'est-ce que les Pingouins ont fait cette année pour pouvoir améliorer l'équipe?
Pas grand-chose. Attends une minute. J'avais une feuille ici qui m'en disait un peu plus. Je pose tout le temps des cols. As-tu quelque chose que
non,
je
non, mais c'est justement, ils n'ont pas signé. Ils n'ont rien signé. Ils sont en négociation avec Yannick Perrault.
Ouf. T'es un expert des mises en jeu, mais à part ça, peut-être ben, donner 20 buts, 22 buts.
Ouais, mais
buts.
C'est justement, ils ont besoin de ça. Et ça coûtera pas une fortune, Yannick Perrault.
Non, ça bon. C'est sûr.
Ensuite, ça laisserait le temps à Fleury de pouvoir venir à maturité. Bon, il y a Crosby. Jordan Staal sera pas prêt.
On sait pas.
Non, il sera
Crosby
pas.
Crosby a fait le club l'an passé.
Ah, Jordan Staal sera pas prêt.
Eric Staal a fait le club sa première année avec les Hurricanes.
Jordan Staal sera pas prêt. Ça va être encore une année de misère pour les Pingouins. Donc... un autre choix au repêchage très élevé.
Ben oui. Fait que dans 5 ans, eux autres, ils bossent le plafond.
Oui, ils vont faire du ménage probablement. Mais là, à ce moment-là, tu pourrais venir la saison 2007-2008 avec Fleury, Crosby, Malkin, Jordan Staal, plus le prochain choix au repêchage. Par pur hasard, s'ils gagnent, ça pourrait être Esposito.
Oh. Ben là, eux autres, tu penses pas qu'ils ont besoin de renfort à la ligne bleue?
Ben, ils vont prendre le meilleur joueur disponible. Là.
C'est officiel.
Si c'est un défenseur, tant mieux. S'il n'y a pas de grosse différence, ils prendront le défenseur, mais sinon, ça risque d'être Esposito, là, qui
ça
est
ressemble.
Déjà classé comme le premier espoir là, en vue du repêchage 2007.
Tranquillement, la situation ressemble un peu à celle des Nordiques à la fin des années 80.
Et oui, puis veut pas, mais ça veut dire probablement une Coupe Stanley d'ici 5 ans.
Ouais, donc une nouvelle arena pour Mario Lemieux.
Oui, sinon l'équipe sera déménagée et puis bon, on
connaît la suite.
On connaît la suite. Prochain sujet, Jean-Pierre Dumont qui s'est vu refuser par les Sabres de Buffalo le 2,9 millions que l'arbitre consenti. Et puis, veut pas, Jean-Pierre Dumont est rendu joueur autonome et il a fait connaître ses intentions auprès du Canadien de Montréal. Les dernières nouvelles veulent que les Red Wings de Détroit on se sont retirés du dossier justement parce qu'ils trouvaient que les demandes de Jean-Pierre Dumont étaient trop élevées.
À 2,9 millions, c'est trop élevé?
Ben, probablement qu'ils ont demandé une baisse. Ils pensaient négocier à la baisse, puis ça a été refusé. Probablement que Jean-Pierre Dumont serait prêt à négocier à la baisse, oui, avec le Canadien, mais peut-être pas avec les autres clubs de la Ligue.
Mais parce que là, on s'entend, là, l'arbitre lui a consenti 2,9 millions.
Oui, mais là, il est joueur autonome.
Oui,
il n'est pas obligé de signer pour 2,9.
Non, je le sais. Les Sabres, eux, c'est pas qu'ils voulaient, ils voulaient pas y verser 2,9. C'est juste que là, la masse salariale était trop élevée.
C'est ça.
Autrement, si Brière n'a pas signé à 5 millions, là un mois, à ce moment-là, il aurait pu mettre sous contrat Dumont sans problème.
Mais est-ce que Jean-Pierre Dumont vaut 2,9?
2,5.
Pour des statistiques un peu comparables, toute la semaine, on a comparé Jean-Pierre Dumont à Michael Ryder.
Au palais.
Et puis, Michael Ryder qui a quand même mis 30 goals dans le filet.
Ouais.
Il touche 2,2.
2,2. Ouais, mais ça, c'est un... Attends, Ryder, il a re-signé cet été?
Oui.
OK. On s'entend, Ryder, il y a une saison derrière lui, là. Une bonne saison derrière lui. Dumont, ça fait quand même un petit bout de temps qu'il roule sa bosse dans la ligue.
D'accord.
Il est pas mal moins frileux aussi que Ryder. Ryder, c'est un joueur unidimensionnel. On s'entend?
Oui. Mais tu le fais. Tu vas chez Dumont, parce que présentement, la masse salariale.
Ah, mais entre 2,5. Mettons 2,5 à Dumont, là, OK? On arrondit ça, là. Entre 2,5 à Dumont, puis 3 millions à Radek Bank.
Oui, mais là, tu peux rien faire, t'es pogné avec, puis tu peux pas l'échanger. T'es pogné avec Radek Bank. Maintenant, Jean-Pierre Dumont, tu le ferais jouer avec qui?
Ben, tu parles que c'est un allié. Du premier trio, on a le coq-l'œil.
Premier trio, il y a Saku Koivu, Higgins,
oui.
Et Ryder.
C'est quand même... écoute. Ailleurs dans la ligue, c'est un deuxième trio,
bon,
ça.
Ton deuxième trio, ça reste...
Kovalev, Samsonov, Ribeiro.
Ouais.
C'est quand même bon.
Puis là, tu te ramasses avec un joueur à 2,5 millions sur ton troisième trio.
Ouais, mais là, fais-moi pas à croire que Higgins est supérieur à Dumont. Là, on s'entend, là, ils l'ont mis sur le premier trio parce que, bon...
Ouais, mais Jean-Pierre Dumont, c'est-tu un joueur de premier trio?
Le premier trio, ça dépend où dans la ligue, comme je te dis. Quand ton centre du premier trio s'appelle Saku Koivu,
okay, pourquoi
que Dumont serait pas un de ses alliés, là? Moi, tu sais comment j'aime beaucoup Saku.
C'est pas un type favori.
Non, fait que c'est ça. Là. Je veux dire, si Saku est sur le premier trio, je vois pas pourquoi du monde serait pas sur le first trio lui avec. Là. C'est en pan. C'est en pan.
Mais moi, j'en pense que du monde, c'est de valeur, mais il aurait fallu le signer avant Samsonov.
Ouais, t'as raison, mais en même temps...
Bon. Parce que là, tu signes du monde, qui tu libères?
C'est parce que t'es un joueur francophone, puis bon, au Québec, tu sais comment que c'est...
Sur un troisième trio.
Ouais, mais Higgins a quand même bien fait en fin de saison.
Ouais, donc peut-être cette année, il va être encore...
Parce qu'il a quand même commencé Higgins sur un quatrième trio en début d'année.
Ouais, lui, il a mérité son temps de glace.
Fait que Christopher Higgins, ça s'équivaut aussi. Je pense même que Christopher Higgins a un potentiel de marqueur supérieur.
Je suis d'accord avec toi à ce niveau-là.
De Koivu, Ryder, Higgins, puis Higgins doit gagner pas mal moins que Dumont, on s'entend bien.
Ça, c'est clair, bon. Sa première année, deuxième année.
Ensuite, Ribeiro, Kovalev, Samsonov.
Ça, c'est un méchant bon deuxième trio. Je sais pas si t'es d'accord avec moi, là.
Ben, toi, t'aimes pas Koivu, moi, j'aime pas Ribeiro.
Non, mais Ribeiro, je suis pas un fan non plus, on s'entend, c'est un punk d'or, là, mais n'empêche qu'il... Il est capable de... Non, mais il a une bonne vision du jeu. Tu peux lui donner ça. C'est peut-être un joueur un peu paresseux, mais le gars, il a des bonnes mains. Il a une bonne vision du jeu.
Il ralentit le jeu.
Oui, mais c'est ça. Mais justement, pour laisser le temps à ses alliés...
Puis lui, c'est tout à fait l'inverse de Ryder. Lui, avec, là, t'es capable de le voir venir à 100 000 à l'heure. Il lance pas. Il va en passer. Le gardien de but, il a même pas besoin de le défier. Il peut même laisser quasiment le filet des airs puis se concentrer sur un 2 contre 1. Sur Kovalev, tellement qu'il est.
Ça se travaille. Tandis que Ryder, il...
Ouais, mais Ribeiro travaille pas.
Ouais, t'as raison. Mais à Carbono, là, c'est ça, là, il aura pas le choix, là. Carbono, il aime pas être Richard pas en tout, là. C'est pour ça que Kovalev, Samsonov, j'ai hâte de voir que ça va
donner. On a dit ça avec Julien. On a dit ça avec Terrien.
Wow.
Il aime, ben, voyons donc.
C'est parce
Ribeiro,
que...
là,
c'est
il
parce
a rien
que...
à faire.
C'est parce qu'il y a une différence dans la façon de faire passer le message. Tu comprends, Terrien, il y avait peut-être pas les mots, là. Julien, il était mou. Carbono, c'est un gars que les joueurs respectent, là. Tu comprends-tu? Là, 5 ans, il était encore joueur dans la ligue, là. Lui, il a gagné.
Gant, t'avais Bob Gainé. Y a-tu un gars qui est encore plus respecté que lui? Puis Ribeiro, ben, gant, pour pogner ton terme, il se pognait le d'or.
Ah, c'est clair. Ouais, bon. Ribeiro, c'est un cas spécial.
Plus tard dans l'émission, on va parler d'un gars qui a un problème d'attitude. Mais Ribeiro, c'en est un, ça. Ça, c'en est un qui a un problème. Là, Gabin, il s'est pas entraîné de l'été, quasiment.
Ouais, je suis d'accord avec toi. J'ai pas le choix de te dire que t'as raison. Mais n'empêche que tu t'en rappelles comment il était capable de trouver Kovalev. Peu importe où est-ce que Kovalev se trouvait, il était capable d'y remettre le puck.
La remettre, oui. Oh. Mais de lancer.
Regarde. C'est ça. Si le gars il est pas capable de lancer au net, là, ça prend quelqu'un pour le faire, puis au moins il est capable d'alimenter ses alliés pour qu'eux le fassent à sa place. Tu comprends?
Oui.
Cueille-vous. Il fait quoi de plus?
Cueille-vous, ben il marque.
Il marque. Ah ouais. J'ai hâte de voir ça, moi, avec une vision à 30% d'un œil.
OK. C'est ce qui met un terme au segment principal. On va passer au segment Shot Clock. Simon Smirka and his guests are ready. Are you? Because it's time to beat the clock.
Allons-y, Simon, beat the clock.
Lucien Bouté a rendez-vous avec James Toney le 15 septembre. À quoi doit-on s'attendre?
Effectivement, Simon, le 15 septembre prochain, Bouté affrontera James Obélé Toney au Centre Bell. D'après son entraîneur Stéphane Larouche, cet affrontement représente un défi de taille pour Bouté. En effet, son rival est réputé pour être un bon cogneur. Bien que sa fiche soit jugée incomplète et gonflée du fait qu'il se soit battu contre des adversaires moyens, Lucien Bouté devra protéger son menton car Toney a compilé 18 KO en 22 combats. Le protégé de la Rouche n'a pas l'habitude d'affronter des jambons et sa fiche de 15 KO en 17 combats explique pourquoi il est classé aspirant numéro 4 au WBC, numéro 5 WBA, numéro 8 pour l'IBF et le WBO. Nous sommes donc en mesure d'assister à un très bon combat et soit à Lucien Bouté d'exprimer encore une fois sa suprématie.
D'accord avec toi, Max. Bouté continue sa progression grâce à son entraîneur Stéphane Larouche qui a toujours su ne pas mettre les charrues devant les bœufs. Tout est dans l'ordre des choses dans l'agenda de Bouté. Toney est le meilleur boxeur qu'il aura affronté et il aura beaucoup à apprendre pour continuer son ascension vers un combat de championnat. Je prédis une victoire au point.
Simon Gagné est toujours sans contrat, mais combien vaut-il?
Plutôt bizarre qu'il n'ait pas encore signé. Combien vaut un joueur qui a 26 ans, qui a déjà joué 6 saisons, 2 participations aux Olympiques, une Coupe du Monde. Il a marqué 160 buts et 324 points. Statistique pour statistique, Brad Richard lui ressemble avec 368 points. Mais une coupe en moins et un Conn Smythe en moins. Jérôme Méguenla ou encore Martin Avlat avec ses 238 points. Je dirais que Simon Gagné vaut autour de 6 millions et qu'il devrait signer au plus vite.
Le numéro 2 chez les Flyers de Philadelphie après Peter Forsberg est toujours à la recherche d'un contrat. Écoutez, il avait 47 buts en 72 matchs l'an passé et Gagné n'est pas à court d'arguments. Solide gabarit, bonne vision du jeu, excellente main, un esprit compétitif, bref, tout un joueur. Malgré son jeune âge, il a su s'imposer dans la ligue et maintenant, c'est l'heure de payer Bobby. En effet, Gagné affirmait la semaine dernière que son agent et le DG Bobby Clark se parlaient sur une base hebdomadaire. Même si Gagné n'a pas l'air de s'en faire, je trouve méprisante l'attitude des Flyers. Doute-t-il encore du potentiel du jeune joueur québécois? Le gars a une tête à ses épaules et n'a pas encore atteint son plein potentiel. Je me répète encore une fois, il est temps de payer Bobby. Nous ne savons pas exactement sa demande salariale et la durée du contrat qu'il recherche, mais il est en droit d'obtenir satisfaction. Richard à 7 millions, Brière à 5 millions. Combien vous gagnez? Bobby, il est temps de payer.
Jacques Villeneuve en NASCAR. Est-ce la solution pour Villeneuve?
Après avoir fini deuxième au championnat sa première année et gagné le championnat sa deuxième année, Villeneuve se pensait plus fin que tout le monde. S'associant à son agent pour partir une écurie, Barr Honda, il croyait que ce serait un Dugat. On connaît la suite. Barr a dû attendre 8 ans avant de gagner sa première course. 8 ans! Il avait encore une chance de prouver à tout le monde de la F1 qu'il avait sa place, mais son comportement et son attitude négative a causé sa perte. Devenu la tête de turc des pilotes, Villeneuve ne comptait plus beaucoup d'amis, sauf peut-être David Coulthard. Jacques ne cadrait pas bien dans les voitures automatisées, lui qui disait un pilote instinctif de l'ancienne génération. Il n'a donc pas réussi à garder sa place jusqu'en 2008, année où plusieurs systèmes d'assistance seront bannis pour enfin revenir au sommet. Lui qui se décrit comme un Européen, sera-t-il trouver sa place dans une série où l'on joue du coude assez solide? A-t-il enfin trouvé sa place? Pour ma part, je ne pense pas. Villeneuve est un enfant gâté, habitué à manger du caviar. Pourra-t-il se contenter de poulet frit?
Malheureusement pour Villeneuve et heureusement pour nous, c'est la fin pour Villeneuve en F1. Le début de la fin aurait été son transfert dans l'écurie Barr Honda qui s'est résumé en une catastrophe. Il y a 7 ou 8 ans, on ajustait la voiture au goût du pilote et maintenant, le pilote doit s'ajuster à la voiture et c'est justement parce que Villeneuve pourra ajuster sa voiture qu'il aura un certain succès en NASCAR. Après une période d'adaptation, bien sûr.
Maurice Claret est-il un autre talent gâché par une mauvaise attitude?
Résumons. Accusé par la police d'avoir falsifié des papiers, exclu de l'Université d'Ohio, amené en cours la NFL pour changer un règlement pour avoir accès au repêchage, se mettre à dos la Ligue nationale de football, participer au combine de la NFL gras comme un rat, refuser un contrat garanti de peu de valeur pour accepter plus en condition de faire l'équipe ce qu'il n'a pas fait, et maintenant armé jusqu'aux dents qu'un gilet pare-balles. 7 mauvaises décisions en 3 ans, et autant de raisons pour ne plus parler de lui.
D'accord avec toi, Simon. Le gars avait réussi à attirer l'attention lors du Fiesta Bowl en 2002, aidant son équipe à gagner la rencontre. Trop paresseux pour finir l'université et accéder normalement au repêchage, celui-ci a préféré contourner la règle du 5 ans dans la NFL en ayant recours aux tribunaux. Ayant gain de cause et se faisant drafter en 3e ronde par Denver, il arriva au camp tellement gras qu'il avait de la difficulté à attacher ses crampons. Je ne comprends pas ce qui se passe avec ces athlètes. Ils ont la chance de pouvoir gagner leur vie en pratiquant un sport qu'ils adorent, mais préfèrent jouer les caïds en écoutant du 50 cents. Non, mais soyons sérieux, quand la police te court après, que tu traînes des armes, que tu portes une veste par balle et que le juge fixe ta caution à 5 millions, oui, pas un, pas deux, 5 millions, c'est parce qu'il y a un os. Claret, quel talent gâché. En prison, ben bon.
Éric Desjardins, c'est la fin.
Ben oui, Simon. Sélectionné en 2e ronde du repêchage de 87 par Montréal, le petit gars de Rouyn-Noranda entrait dans la grosse ligue à 19 ans l'année suivante. Dans le début de la vingtaine, Desjardins a su s'imposer chez le Tricolore comme un pilier à la ligne bleue, tellement qu'en 91-92, celui-ci a eu une invitation au match des étoiles parmi la crème de la crème. L'année suivante, Desjardins fut un des artisans de la conquête de la Coupe par les Canadiens, notamment grâce à un tour du chapeau lors du 2e match de la finale face aux Kings de Los Angeles. Malheureusement pour nous, il fut échangé lors d'une drôle de transaction en 94-95 en compagnie de John Leclerc et Gilbert Diane pour l'obtention de Mark Recchi. On connaît la suite, Desjardins s'imposa chez les Flyers et Leclerc s'éclatait chaque fois qu'il affrontait le CH. Rattrapé par l'âge et les blessures, M. Desjardins quitte les Flyers le cœur gros et a su démontrer sa grande classe en remerciant les gens de Montréal lors de la conférence de presse annonçant la fin de sa carrière. Bravo pour ton cheminement, Eric. Tu peux te retirer la tête haute.
C'est ce qui met un terme à l'émission de cette semaine. J'espère que vous avez passé un agréable moment. Maxime, je te remercie beaucoup.
Ça m'a fait plaisir, Simon.
On vous voit la semaine prochaine.
Au revoir.
See you next week for another show with Simon Smirka and his guests.